Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maserhet Betzah, Daf Rav Bet, au 2 points. Ve'en zokfin et amenorah, une phrase qu'on a vue dans la Mishnah, qu'on ne comprenait pas tout à fait. On n'a pas le droit de monter une menorah, c'est-à-dire un chandelier. Maïkavid, quel est le problème? Amar Afrina Barpizda Achab et Menorah Shelchuyot. On parle d'un chandelier qui est fait par certains morceaux qu'il faut attacher ensemble. Et alors, Demerse Kebone. Le fait d'attacher les morceaux, c'est une construction. Mais Beth Shammai Savriyash Binyan Bekelin, Ve Beth Hillel Savriyash Binyan Bekelin, la machloket est justement, est-ce que l'interdit de construire, c'est même sur quelque chose qui n'est pas attaché au sol, ou c'est seulement sur quelque chose qui est construction au sol? Donc, on a une machloket, est-ce que Yash Binyan Bekelin ou En Binyan Bekelin? Et c'est pour ça que d'après Beth Shammai c'est interdit, d'après Beth Hillel c'est permis, puisque d'après Beth Hillel, En Binyan Bekelin Ve En Stira Bekelin, ça n'est pas défini comme une construction, ça n'est pas défini comme une destruction quand on détruit quelque chose qui n'est pas attaché au sol. Oula, Ikla le Beravuda, on ramène une histoire qui ressemble à ça. Oula était chez Ravuda, Kam Sham et le serviteur de Oula, Zakafle le Shraga. Il a penché un petit peu la bougie dans laquelle étaient l'huile et la mèche. En fait, il voulait éloigner l'huile de la mèche pour garder un peu d'huile. Et il verra Vudal et Oula. Ravuda et Oula. Anoten Shemen Banner, celui qui rajoute de l'huile dans une bougie qui est allumée, Chayav Mishumavir. Il transgresse l'interdit d'allumer, puisque grâce au fait qu'il a rajouté de l'huile, la bougie va rester allumée plus longtemps. Mais Mistapek, celui qui prend de l'huile et donc qui cause l'extinction de la bougie, Chayav Mishumichabe, il a transgressé l'interdit d'éteindre. Et là, ton serviteur, quand il a penché et il a éloigné l'huile de la mèche, là aussi, ça devrait être quelque chose d'interdit à Marley. Mais voilà, il a dit à Ravuda, sache que ce qu'il a fait, c'est pas, il ne m'a pas demandé mon avis. Lavada Atai, il a fait de lui-même, et tu as raison, c'est interdit de le faire. Amarav Kanba Share, Yom Tov, quand on a une mèche qui a pris, le bout de la mèche en général, il est brûlé, et le reste de la mèche qui continue à aspirer l'huile, elle n'est pas brûlée. Si on veut enlever ce morceau qui est brûlé, on a le droit de le faire pendant Yom Tov, puisque grâce à ça, la flamme sera plus agréable. On n'a pas le droit d'avoir des rapports à la lumière. Il y a une bougie et maintenant ils veulent avoir un rapport. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut éteindre la bougie pour avoir un rapport? Puisque c'est un besoin, on pourrait considérer qu'on permettrait d'éteindre la bougie pendant Yom Tov. Amarlo, il a dit, mais il y a une autre technique. T'as qu'elle dans une autre pièce. Et no bayit acher, s'il n'y a pas d'autre pièce, maï. Efshar la sot le mechitza, il peut faire une mechitza, une cloison, qui empêcherait la lumière de passer. Imenlo la sot mechitza maï. S'il n'a pas la capacité, il n'a pas un drap ou autre pour faire cette mechitza maï, efshar l'echbot alafkli, il peut mettre sur la bougie un ustensile qui va assombrir, qui va empêcher la lumière de passer. Et no klimaï. S'il n'a pas cette possibilité, qu'est-ce qu'il fait? Amarle assour. Il lui a répondu que c'était assour. Et Tivé demande la Gemara, et Mechabin est Abkat. On n'a pas le droit d'éteindre un Abkat, c'est un morceau de bois qui, quand on coupe du bois, il y a des petits morceaux qui sautent, ce qu'on appelle Abkat. Et si jamais ce morceau-là a pris feu, enfin, il est allumé, on n'a pas le droit d'éteindre qu'aider la Roussalea, quand l'intérêt de l'éteindre, ça n'est pas dans un intérêt immédiat, c'est simplement parce que je veux garder ce morceau de bois. Mais, Imbishuil, Shelo et Tachen Abait, si c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait de la fumée dans la maison, c'est pour ça que je l'éteins. Ou alors, Agdera, je ne veux pas que le plat soit en fumée, moutard. Tant quand c'est un besoin immédiat, c'est moutard. Quand c'est pas un besoin immédiat, c'est interdit. Donc on voit que pour un besoin immédiat, on a le droit de le faire. Amarle, Aïe, Rabbi Udaï, ce que tu ramènes, toi, comme preuve, c'est l'avis de Rabbi Udaï, qui pense que on permet non seulement Ochel Nefesh, mais marchiré Ochel Nefesh, tout ce qui gravite autour du Ochel Nefesh. Et donc, évidemment, tout de Rabbi Udaï, on peut comprendre que tout ce qui est un besoin de l'homme, on a le droit de faire une melacha pour ce besoin pendant Yom Tov. C'est pour ça que lui permettrait d'éteindre aussi une bougie pendant Yom Tov pour avoir un rapport. Mais, qui kaminana, moi la question c'était de savoir, moi quand je t'ai dit que c'était assour, c'est d'après Rabbanan qui interdisent toute autre chose que la consommation directe, et toute autre chose indirecte c'est interdit. Un rapport aussi c'est quelque chose qui n'est pas défini comme Ochel Nefesh, ça peut être défini comme un besoin, mais pas comme Ochel Nefesh. C'est pour ça que je ne permets pas, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était assour. Certains expliquent que c'est pour ça que bien que la halakha, on est posé comme Rabbi Yehuda. Et donc, ça devrait être moutard. Mais halakha ve en morinken, c'est-à-dire c'est la halakha, mais c'est une halakha qu'on n'enseigne pas. Alors au début, il ne voulait pas lui répondre, parce qu'il ne voulait pas lui dire c'est assour, parce qu'en vérité c'est moutard. Mais il ne voulait pas lui dire c'est moutard, parce qu'en vérité, on n'a pas le droit d'enseigner. Donc il lui a donné tout plein d'autres solutions. Et quand il ne lui a pas laissé le choix, il lui a dit, bon, bah, tu veux que je tranche, bah, alors à la Khev el Morikan, donc je te dis que c'est assur. Maïmine Abaye Meraba. Autre sujet qui ressemble à ça, Abaye a posé à Rabba, Maou le Khabal tel le Kab Yom Tov, éteindre un feu pendant Yom Tov. Et Khali Katsakalan ne fâche le Kamaïli, s'il y a un danger de mort, évidemment, c'est moutard. La filoupe Shabbat, j'arrive même pendant Shabbat, on aura de le faire. Kamibaïli, Mishoum Iboud Mambon. Bon, la question c'est quand il y a une perte d'argent, est-ce que c'est permis ou pas? Bon, elle est assur, il lui a dit ça assur. Et Tivé, il lui a posé la question, on voit que quand c'est un besoin immédiat de ne pas abîmer son plat ou de ne pas abîmer son bois, hein, c'est permis. Évidemment, de ne pas abîmer sa maison, si, ça devrait être permis. Il a répondu pareil, Aïe Rabbi Yudaï, qui kaminana le Rabbanan. C'est vrai que Rabbi Yudaï, d'après Rabbi Yudaï, ça devrait être permis. Mais moi, quand je t'ai interdit, c'est d'après Rabbanan qui disent que seul ce qui est un éther, la seule chose qu'on a permis, c'est Ochel Nefesh, c'est-à-dire consommation. Et c'est pour ça que seul dans ce cas-là, c'est permis, mais protéger tes biens dans l'incendie, c'est pas permis. Est-ce qu'on a le droit, l'ikrol, c'est mettre un produit qui était kahol, qui était bleu dans l'œil, pendant Yom Tov. Alors, s'il y a un danger, donc si jamais l'œil, il y a quelque chose qui coule de l'œil, ou alors on sent que l'œil est transpercé, il y a du sang qui coule, ou des larmes qui coulent de l'œil, ou alors ça lui brûle dans l'œil, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de souffrir, c'est un danger, ou trilatoukhla, c'est le début de la maladie, il y a un danger. Dans ce cas-là, c'est valable que c'est moutard. Il y a filoube Shabbat, ça arrive pendant Shabbat, on a le droit de le faire. Quand la maladie est déjà finie, que l'œil est en train de s'ouvrir, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Alors, les assour, il lui dit ça assour. Et Tivé, il lui pose la même question. On voit dans la question que tout ce qui est un besoin, c'est permis. Il lui répond, tout ce qui est un besoin, c'est permis. D'après Abidam, c'est interdit. Ah, mais Mar, Charel, Mikralena, Melochi, Beshapta. Mais Mar a permis de demander à un non-juif de nous faire cette guérison pendant Shabbat. Il y en a qui ramènent la vie de Amémar. Amémar gouffé, Karalena Ben Ochib Shabta. Pas simplement qu'il a permis. Lui-même, une fois, il a eu besoin de ça et il a demandé à un goy de lui faire. Amarlir, Vachil, Amémar, Maïda, Terdama, Ola, Brelavola, qui tsekol, tsorke, choléosina, Ben Ochib Shabbat. Pourquoi est-ce que tu t'es permis de faire ça? Parce que c'est marqué clairement que bien qu'on n'a pas le droit de faire une refoua pendant Shabbat, et bien qu'on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit à un goy. Demander à un goy de faire une refoua, c'est permis pendant Shabbat. Même s'il n'y a pas de danger, il a le droit de dire à un non-juif de le faire. Anemile lui a dit, c'est pour ça que toi tu t'es permis de le faire, mais sache que Anemile, c'est seulement quand la personne qui va subir l'opération ou autre ne va pas aider le non-juif à faire cet interdit. Puisque pour le non-juif c'est permis. Avalmar, Kamesayabade, des Kamitsu Patar, mais toi, quand tu as demandé de le faire dans l'œil, il a dit ouvre grand l'œil, ferme l'œil. Donc toi, tu es Messayer, hein, et tu n'as pas le droit de faire une refoua. Donc toi aussi, tu es actif. Donc c'est interdit. Seul quand tu n'es pas actif, c'est permis. Amarle, il a répondu. Ikar, Ravzil, des Kalekavatar. Tu as raison, Ravzil aussi pense comme toi. Mais Shan, moi, je lui ai répondu Messayer, Albamamash. Je pense que cette aide minable que je vais amener au fait qu'il me met quelque chose dans l'œil, c'est pas défini comme quoi que ce soit, c'est pas défini comme quelque chose de conséquent. C'est pour ça que j'ai le droit de le faire. Il a permis aussi de mettre ce médicament sans demander à un non-juif le deuxième jour de Rosh Hashanah, puisque le premier jour est mis la Torah, le deuxième est seulement mis la Rabbanan. Amalar Vachile Memar, Vahama Rava, pourtant Rava nous a dit, Bien Tov Rishon Teskuba Amamin. Si jamais on a un défunt, il faut s'en occuper pendant Rosh Hashanah, alors on va demander à des non-juifs le premier jour. Mais Bien Tov Shini, si c'est arrivé le deuxième jour, Itaskubo Israël. Même des juifs ont le droit de l'enterrer. Vahafilu Bishnaim Im Tovim Shel Rosh Hashanah. Non seulement dans les deux jours de fête standard, mais même dans les deux jours de Rosh Hashanah, bien que Mashen Ken Bebetsa. Mais que bien qu'au sujet de Rosh Hashanah, au sujet d'un œuf qui est né le premier, on a défini que c'était une Gdusha Achat, c'est-à-dire que, comme on a vu il y a près de 20 jours, Gdusha 18 jours, on a vu que c'était une Gdusha Achat, c'est-à-dire que c'était une Takanat Rachamim, qu'on les considérait comme un grand jour, et donc c'est pour ça que ce qui était défini comme Moukhtse au début de Rosh Hashanah était défini comme Moukhtse jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Si c'est ainsi, demande la Gemara, toi, comment tu t'es permis de dire, bon, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on peut être Mekel. Le deuxième jour de Yom Tov, encore j'entends, mais le deuxième jour de Rosh Hashanah, on voit qu'on devrait être Mahmir, les interdits de Rosh Hashanah, même le deuxième jour, parce qu'on le considérerait comme ayant la Gdusha du premier jour. Amarle, Anna Kenadea Sferli. Moi, je pense comme Nerdea, Namrav Beveta. Mais Nerdea pense que la Betsa est permise le deuxième jour, parce qu'on les considère comme un Safek, Maïda Ater. Ah, tu vas me dire, même sur Nerdea, c'est une question Dilma me Abrelel et Elul, peut-être que BMS, le deuxième jour, est le vrai jour. C'est-à-dire, si jamais Elul est Meoubar, donc c'est-à-dire un mois complet, Meoubar c'est enceinte, mais c'est-à-dire un jour en plus, donc il a 30 jours, et Rosh Hashanah ne serait que le deuxième jour de ce qu'on va fêter, nous, Rosh Hashanah. Mais ça fait qu'on va faire deux jours de Rosh Hashanah le 30, par rapport au mois d'avant, le 30 et le 31, mais peut-être que c'est seulement le 31 qui serait en vérité Rosh Hashanah. Et donc, c'est ce deux fameux deuxième jour. Et donc, peut-être que je me trompe, peut-être que ce que je suis en train de dire, c'est une erreur, parce que le deuxième jour est le jour le plus important et celui qui est Minatorah. C'est jamais arrivé que la véritable date Minatorah de Rosh Hashanah était le deuxième jour, c'est toujours arrivé le premier jour. Donc, le deuxième jour, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Midera banane de considérer ça comme une seule Kdusha, je ne suis pas d'accord, je pense comme Nerdea, de dire que peut-être le deuxième est le Ikara Minatorah, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est pour ça que je permets de demander à un juif de mettre ce médicament pendant Rosh Hashanah, même le deuxième jour. Dernière partie de la Mishnah expliquée, Ven Ofin Pitin Gritin et la Rekikin. On n'avait pas très bien expliqué dans la Mishnah, on avait dit que c'était un gros pain, un petit pain, on va voir ce que ça veut dire. Tanu Rabbanan Vachamori Ven Ofin Pat Ava Bepesach Vetilel Matirin. La Machloket, elle est au sujet de la Matzah. Est-ce qu'on a le droit, enfin, au sujet d'un pain qui serait très épais, est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Pesach ou pas, sachant que plus il est épais, plus il y a des risques de chametz. Donc, d'après Beit Shammai, on ne prend pas ce risque. D'après Beit Hillel, c'est bon. Kama patava, quelle est la mesure qui est permise? Ma'avuna tefar, shekan matilu lechem apanim tefar. Lechem apanim, c'est un pain qu'on met au Beit Hamikdash, qui est matzah, c'est-à-dire qui n'est pas chametz. Son épaisseur est tefar. Donc, je comprends que jusqu'à un tefar, je n'ai pas de risque de chametz. Matkifla Yosef, c'est faux. Imamru bezrizin, imamru bishelan zrizin. Qui est-ce qui fait le pain de lechem apanim? C'est des zrizim, c'est des kohanim. Eux font attention à ce qu'ils ne soient pas chametz. Mais peut-être que toi, au milieu, tu vas être fatigué et tu vas laisser être marmite. Imamru bepat amela, yomru bepat shena amela. Le pain de l'echem apanim, il est bien travaillé. Alors, il est bien, quand on est en train de faire la pâte, on est en train de le travailler. Et donc, c'est pour ça qu'il ne devient pas chametz. Mais toi, peut-être, tu vas mal le travailler. Imamru beetim yeveshim yomru beetim lachim. Le bois qui est utilisé pour réchauffer le four, c'est un bois qui est bien vérifié, est-ce qu'il est bien sec. Mais toi, peut-être, tu vas amener du bois qui est un peu humide et donc la chaleur sera moins forte. Peut-être que ton tanour, ton four à toi, il est plus froid que celui du Beit Hamikdash. On avait un four qui était en fer, on était obligé d'avoir un four qui était en fer, et sa chaleur est plus intense qu'un tanour qui est en argile. Et donc, une pâte, un pain qui fait un tefar de largeur au Beit Hamikdash n'est pas chametz. Ok, je peux comprendre. Il a toutes les conditions pour être protégé du chametz, mais chez toi, à la maison, peut-être qu'il serait chametz. Et donc, on ne pourrait pas permettre un pain de cette épaisseur chez n'importe qui. Et donc, on doit expliquer la braïta. De quoi on parle, Pat Ava, Amar Rabbi Yirmiyahu bar Abba, Sha'alit Rabbi Beichud. J'ai demandé à Rabbi, entre moi et lui, quand on était seul, Umanu, à qui j'ai demandé, Rav, Maï Pat Ava, c'est quoi le terme de Pat Ava? Pat Meruba, une grande quantité de pain. Est-ce qu'on a le droit de faire plus de pain que ce qu'on a besoin? Beit Shammai nous dit non, t'as pas besoin, non. Beit Hillel nous dit, comme on a déjà vu auparavant, puisque la présence de beaucoup de pain dans le four va améliorer la cuisson du pain qui est dans le four, celui que tu as besoin pour Yom Tov, c'est moutard. Ikadem, il y en a qui disent que l'histoire elle était comme ça. Maravimia Baraba, Marav Shehit El Rabbi Bihut, j'ai demandé à Rabbi, c'était qui Rabbi? Rabbeinu Akadosh, pas Rav, mais Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot. Maï Patava, Pat Meruba. Donc la différence entre les deux, c'est qui a dit. Est-ce que c'est Rav ou est-ce que c'est Rabbi? Vama et Kaoule Pat Ava. Pourquoi est-ce que, si c'est ça la question, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Pat Ava, un pain qui est épais? Mishum de Nefisha Belisha, parce que quand on fait la pâte avant de former le pain, on a énormément de pâte. C'est pour ça qu'on dit que la pâte est épaisse. Iname chez Beatredai, Tana Pat Meruba Pat Ava Kaoule. C'est comme ça qu'on les appelait. Chez lui, c'est comme ça qu'on appelait quand on faisait beaucoup de pain. Ah, t'as fait du gros pain. T'as fait du gros pain. Comme si on disait, t'as fait beaucoup de pain. Mirde, la Gemara demande pourquoi est-ce que c'est interdit d'après Beit Shammai. Mishum de Katarticha de Lotzarichu. C'est interdit de faire cette tircha, cette fatigue là aujourd'hui alors que t'en as pas besoin. Hein. Maïria Pesach, Filou Bishai Mentovim. Pourquoi est-ce que dans la Braïta c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire Pat Meruba Pesach? Inachiname. Mais Met, c'est aucun rapport avec Pesach. C'est-à-dire, d'après la première explication, on parlait de l'épaisseur du pain. Je comprends qu'on parle de Pesach. Mais si tu me dis qu'on parle de la quantité, c'est tous les Yom Tov pareil. Tu as raison. Vetana Abi Yom Tov de Pesach. Mais le contexte où la question a été posée, c'était à Pesach. C'est pour ça qu'il a dit non, il ne faut pas faire beaucoup de pain à Pesach. Mais en vérité, le problème, c'est la quantité et non pas l'épaisseur. Tenel Mahri. Donc on voit que l'explication, c'est comme on l'a dit, c'est la quantité de pain qui est problématique d'après Beit Shammai et qui est permise d'après Beit Hillel, puisque ça va améliorer la qualité du pain qui est dans le four. Après qu'on ait vu dans la première Mishnah les Chumrot de Rabban Gamliel, on voit les Koulot maintenant. Afou Amar Shloshet Varim Lakel. Mechabdin Bet Amitot. On a le droit de balayer Bet Amitot. Eux, manger sur des lits allongés, comme certains font à Pessah aujourd'hui. Et donc ça s'appelle Bet Amitot. La salle à manger, c'est là où il y avait les lits, où ils mangeaient. Il fallait balayer après. Surtout quand on mange allongé, j'imagine que c'était plus salissant. Balayer dans un endroit où, qui n'est pas carrelé, hein, il y a de la terre. On a ce qu'on appelle achouillé goumot, c'est-à-dire des risques de boucher des trous. Et donc, on a une marloquette, est-ce que c'est moutard ou assour? D'après Rabban Gamliel, c'est moutard parce que d'avoir chez Nomit Kaven, et d'après Rabbanan, c'est assour. Manerin et amougmar. Manerin et amougmar, c'est faire une bonne odeur. Comment est-ce qu'on faisait cette bonne odeur? On mettait un produit sur des braises ou sur des. Sur des braises, et donc ce produit-là, cet encens brûlé, et ça faisait une bonne odeur. D'après Rabban Gamliel, c'est moutard. Et d'après Rabban Ansehassour, la question c'est de savoir est-ce que c'est chavé les konefesh, c'est-à-dire est-ce que c'est un besoin qui est équivalent chez tout le monde, et donc c'est seulement s'il est équivalent chez tout le monde qu'il est permis, Arloket. Gdi Mekoulas, c'est faire griller un agneau, et le faire griller avec c'est sur une broche comme ça, mais sur la broche il y a tous les membres de l'agneau. Est-ce qu'on a le droit de le faire le soir de Pessah? D'après Rabban Gamliel, oui, d'après Chachamim, non. Puisque les gens vont croire que c'est le Korban Pessah, et ils vont donc ils vont se dire on a le droit de faire des Korbanot aujourd'hui, et ils vont faire un Korban Pessah. Amar Ravasi, Machloket, la Machloket est seulement l'égamer, c'est-à-dire quand il veut faire cette bonne odeur, non pas pour avoir une bonne odeur, il veut que cette odeur s'imprègne dans les habits, là c'est interdit. C'est le Machloket, Aval et Ariach. Mais si c'est pour créer une bonne odeur, d'après tout le monde c'est moutard. Métivé, demande la Gemara. Hein. Donc il y a le marloquet, est-ce qu'on a le droit de balayer dans un sol qui n'est pas carrelé? Je suis parti avec mon père chez Rabban Gamliel. Il balayait pas. Et là, il balayait à la veille de Yom Tov. Et après avoir balayé, il mettait des draps. Les machars, quand ils allaient manger chez eux, mais salkin et tazdinim. Alors après le repas, sur le drap, il y avait toutes les saletés, et ils ramassaient le drap. Donc c'était propre automatiquement. Amoulo, il nous dit si c'est ça, imken, le Shabbat mutar la sotken. Même Shabbat qui est plus ramour que Yom Tov. Il n'y a personne qui devrait interdire, il n'y aurait pas eu de sujet de discussion entre Rabban Gamliel et Chachamim. Forcément, le sujet de discussion, c'est balayé directement. El malchin et amugmar be Yom Tov, Shabbat Gamliel malchin. Donc, Marloket, est-ce qu'on a le droit de faire ce fameux mugmar? Amar Abelezar Baratzadok, Pamir Ben Nichnasi, Rabban Gamliel. Velo im malchin et amugmar be Yom Tov. J'ai vu que Rabban Gamliel, il ne mettait pas ce mougmar, là, cette bonne odeur, Mirev Yom Tov. Là, qu'est-ce qu'il faisait? Mais vilain des sakaot chez le Barzel. Des ustensiles en fer, dans lesquels il y avait des trous, et l'odeur était déjà à l'intérieur. On met Hachin Otam, donc on créait cette odeur enfermée dans cette boîte. Ou Pokekin, on bouchait la boîte. On nique Mikve Mirev Yom Tov, depuis la veille de Yom Tov. Les Machak, Shokin, Ichnasim, Potrim, Mikve, Mizabait, Mougmar, Midgamer, Melav. Donc on avait un concentré d'odeur qui était déjà créé, on n'avait rien besoin de faire cuire pendant Yom Tov, et puis quand les gens arrivaient, on voulait mettre une bonne odeur, hop, on enlevait les bouchons. Amoulim kanabe Shabbat, moutar la sotken. Mais ça c'est moutar même Shabbat, tu ne devrais pas avoir de marloket. En tous les cas, de nous dit la Gemara, tu vois bien que le sujet, l'échange qu'il y avait entre Rabbi Tzadok et Rabban Gamliel, entre Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok et les Chachamim, c'était créer une bonne odeur dans la maison pour les Orim. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on a le droit de faire une bonne odeur qui va imprégner les habits, la question est de savoir est-ce qu'on a le droit de faire une bonne odeur pour sentir. Donc c'est contraire à ce que tu nous as dit toi, Ravassi. Et la Itmar, Itmar, l'enseignement de Ravassi, il faut l'amener d'une autre manière. Marloket, les Ariar, toute la Marloket, c'est de créer une bonne odeur pour soi. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? C'est une anatagouf. D'après un gagnant, c'est permis puisque c'est comme Ochen Nefesh. D'après Chachamim, c'est interdit parce que c'est pas Ochen Nefesh. Aval et les gamères, mais imprégner un habit d'une bonne odeur, c'est interdit d'après tout le monde puisque ça n'est pas Ochen Nefesh. Ibaya Leo, Maou Le Hachen. Est-ce qu'on a le droit à Le Hachen? Alors c'est pas fumer, c'est mettre un parfum sur du feu et ce parfum va donner une bonne odeur à un fruit. Donc c'est par exemple du saumon fumé. C'est-à-dire fumer des fruits. Est-ce que c'est permis de le faire ou pas? Rav, Irmia Baraba Amarav, Asur, Shmuel Amar Moutar. Quelle est la marque? Il y a un interdit parce que quand tu poses ce parfum sur le feu, tu vas éteindre les braises. Et donc, il y a un interdit de Mechabé. Et alors, sachant que ce que tu veux créer et n'est pas défini comme un Ochel Nefesh, puisque tu dois faire une Melacha, c'est interdit. S'il n'y avait pas de Melacha, ça aurait été permis. Il y a une Melacha. Tu veux me dire que c'est permis dans le cadre de Ochel Nefesh, ça n'est pas défini comme quelque chose de Ochel Nefesh. Et pourquoi ? Parce que ça n'est pas un besoin qui est existant chez tout le monde. Alors que Shmuel pense que c'est Ochel Nefesh. Et donc, même s'il y a une Melacha transgressée, on a le droit de le faire. Amaler, Nachman, venez, Memar, Mpnei, Shemavir. Pourquoi est-ce que tu me dis que tu éteins le feu ? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tu es en train de brûler l'encens, le parfum ? Amaler, il a dit, tu as raison. Trilato, Mechabev, Sofo, Mavir. Au premier contact, d'abord, il éteint la braise. Et après, c'est lui qui prend feu. Donc, le premier interdit transgressé, c'est éteindre. Au final, il transgresse deux interdits. Il fait brûler aussi cet encens. Amar, Rav Yehuda, au sujet de celui qui nous a interdit. Dans quel cas il nous a interdit ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a interdit ? C'est Rav, n'est-ce pas ? Ken, Rabbi Yirmiyah bar Abba, au nom de Rav. Amar, Rav Yehuda, al gabe gachelet asur. Sur une gachelet, sur une braise, c'est interdit, comme on a dit, parce qu'il éteint. Mais al gabe cheres, si j'ai pris de l'argile et je l'ai chauffée, et sur cette argile, je vais déposer l'encens et elle va brûler, et c'est comme ça que j'aurai une odeur, c'est moutard. Pourquoi ? Éteindre, c'est pas éteindre. Éteindre, c'est le feu. C'est pas éteindre quelque chose qui est chauffé. Allumer de cette manière, c'est un allumage inhabituel. Et c'est permis. C'est permis de le faire pendant Yom Tov. Rabba Amar, Fuel Gebecher, Esna Masur, Mishum de Kamolid Recha. Bien que par rapport aux interdits d'allumer et d'éteindre, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai un autre interdit, ce qu'on appelle Molde Recha. Tu vas créer une odeur dans ce Cheres, dans cette argile, et ça, c'est interdit. Mettre un verre de parfum sur un tissu, c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il crée une odeur dans l'habit. C'est pour ça que quand on veut se parfumer, Shabbat ou Yom Tov, on doit faire attention à ne pas mettre du parfum sur les habits. Certains sont makpidim de ne pas mettre le parfum quand ils sont habillés, d'attendre de mettre le parfum quand ils n'ont pas encore d'habits sur eux, et d'attendre un petit moment que le parfum sèche, et seulement après porter les habits, pour que ça ne soit pas molid recha, pour que ça ne crée pas on n'imprègne pas nos habits de parfum. Maintenant que toi, Rabat, tu m'as inventé un interdit qui s'appelle Molid Reach, quelle différence entre Molelo ? Si jamais dans la Braïta c'est marqué, il y a un certain bois qui dégage une odeur, Molelo, il peut le faire tourner entre ses doigts et l'écraser, ou Meriachbo, et sentir, ou alors Kotmo, il va couper un morceau de bois, ou Meriachbo. Pourquoi est-ce que ça ne s'appelle pas Molid Reach ? La Gemara nous dit, Atam Recha Miaïta. L'odeur là-bas existe déjà. Elle n'est pas, je n'ai pas besoin de la créer. Elle existe déjà. Et quand je vais faire ce jeu-là avec ce morceau de bois entre les doigts, je suis simplement en train de développer, de propager cette odeur. Aha, quand j'ai de l'odeur j'ai une odeur que j'installe sur ce cheres, sur cette argile, on le dit, c'est comme une drecha. Arrête, dans le cheres, il n'y a pas cette odeur. Donc j'installe une odeur dans un endroit où elle n'existe pas. C'est pour ça que cette odeur, c'est pour ça que c'est interdit. Atkan, ceux qui pensent que c'est interdit. Donc on a dit qu'on a une marloquette. Est-ce que, d'après tout le monde, d'après Rav qui est interdit, Gachelet, c'est interdit. Cheres, marloquette, est-ce que c'est interdit ou c'est permis ? Pourquoi est-ce que ça serait interdit ? Mishum molid recha. Rav Amar, al Gachelet, la même moutard. Moi, je pense que c'est moutard, comme Shmuel. Mishum d'ave abisra gumre. Mettre de la viande à cuisiner. On a le droit ? Oui, on va créer une odeur. Bah oui, alors, on a le droit, c'est Ochel Nefesh. Ah, Ochel Nefesh, on a le droit. Donc, faire cette odeur, on a le droit. Darash Rav Gvia mi Bekatil. Donc, Rav Gvia, qui venait d'un endroit qui s'appelle Bekatil, à Pitra de Beresh Galuta, sur la porte de la maison de Beresh Galuta. Ktura Share. Il a dit Ktura, c'est permis de le faire. Amar lo amemar, ma Iktura. C'est quoi Ktura ? Iktura Beade. Si tu parles d'aplanir des. Quand un habit est froissé. Et donc tu veux le faire, tu veux repasser. Mais c'est Oman, c'est défini comme quelque chose qui doit être fait par un artisan. Et donc c'est quelque chose qui devrait être interdit. Veille la chaîne. Et si c'est pour faire ce qu'on a dit, faire un fruit qui deviendrait fumé, Asourda Kamechabe, parce qu'il est en train d'éteindre, ça devrait être interdit, comme nous a dit Rav. Moi je pense que c'est la chaîne, on veut faire un fruit fumé. Mite de la Vébisra Agumra, comme faire cuire de la viande, on a le droit. Donc c'est Ochel Nefesh, Ikadamre. Si c'est repassé, c'est défini comme un acte interdit puisque c'est quelque chose qui doit être fait par l'artisan. Il a chaîne des kamolid recha. Et si c'est faire une odeur, c'est l'interdit, non pas comme a été expliqué au départ d'éteindre le feu, mais molid recha comme nous a dit Rabba. Ce que je vous ai dit, c'est pas simplement que je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit au sujet, au nom d'un grand Talmid Chacham, Leolam Lehashen, on a le droit même de fumer un fruit. On de la même manière qu'on a le droit de faire griller la viande, on a le droit de faire ça puisque c'est défini comme Ochre Nefesh. On va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc on a vu à la bonne page, ça serait bien aussi. Machloket entre Beth Hillel et Beth Shammai, est-ce que Yesh Binyan Bekelin, et donc est-ce qu'on a le droit d'assembler les parties d'un chandelier, d'après Beth Shammai, non, d'après Beth Hillel, oui. Celui qui enlève de l'huile d'un bougeoir qui est allumé, ou celui qui en rajoute, transgresse un interdit. Celui qui va faire pencher le bougeoir pour éloigner l'huile de la mèche aussi, transgresse un interdit. Couper la partie brûlée de la mèche pendant Yom Tov, c'est permis de le faire. Éteindre une bougie pendant Yom Tov quand on a un besoin, comme par exemple faire un rapport et qu'on n'a pas le droit de faire à la lumière. En vérité, la Gemara chinoise était possède que c'est assourd, mais comme je vous ai dit, les Rishonim disent que dans l'absolu, c'est le vrai moutard, mais on n'a pas le droit de le dire. Mais c'est assourd donc. Éteindre le feu quand on a un besoin, non pas par rapport à Yom Tov, c'est interdit. Mettre un médicament quand c'est pas un danger, c'est interdit. Donc tout ça, c'est dans le même cadre, puisque c'est pas un besoin de Yom Tov, mais c'est un besoin. D'après Avouda, c'est permis, d'après Abanan, c'est interdit. Demander à un goy de faire une refoua pendant Shabbat, c'est permis. Et même si on va l'aider dans sa démarche, c'est-à-dire bouge la tête, lève les yeux, etc. Machloket, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Yom Tov, Sheni, Shel Rosh Hashanah. Alors, Amemar nous a dit que c'était permis de le faire parce que c'est défini comme un jour qui n'est pas Yom Tov. On lui a demandé, mais pourtant, c'est défini comme Yom Tov. Tu vois bien que par rapport à Beta, c'est défini comme Yom Tov. Premièrement, il pense comme l'RDA que le deuxième jour est permis. Deuxièmement, le deuxième jour de Rosh Hashanah ne peut jamais être le Rosh Hashanah Mina Torah. Cuisiner une grande quantité de pain pendant Yom Tov, Machloket, Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que c'est permis? Cuisiner un pain qui est un tefach d'épaisseur, ça devrait être interdit pendant Pessah, c'était permis au Beth Amikdash parce qu'eux avaient les capacités de faire attention à ce que ça ne soit pas Hametz. Balayer entre les lits, d'après Rabban Gamliel, c'est moutard parce que c'est d'avoir chez Nomit Kaven, même s'il va boucher les trous, d'après Rabbanan, c'est interdit. Mugmar, faire créer une bonne odeur, c'est là qu'on a une marloquette, est-ce que c'est permis ou pas? Mais mettre une odeur dans un habit, c'est interdit. Faire une odeur dans un fruit, marloquette, est-ce que c'est permis parce que c'est défini comme Ochre Nefesh ou c'est interdit parce que ce n'est pas Ochre Nefesh? Dans quel cas ça serait interdit? Premier avis, seulement quand je le mets directement sur une braise parce que j'éteins et j'allume, mais sur un kheres qui est brûlant, ça devrait être permis. Deuxième avis, même sur un kheres qui est brûlant, ça devrait être interdit puisque je suis molid réar, je crée une odeur dans ce kheres et c'est quelque chose d'interdit. Le daf est clair, Baruch Hashem, n'oubliez pas de faire Chazara. Et à demain, Be'ezrat Hashem.